Radio Campus Lille, 18h.
Radio Campus, la culture présentée par les jeunes.
Bonjour, je m'appelle Samuel, vous êtes bien sur Radio Campus Lille et je vais vous présenter sans plus attendre les actualités culturelles et sportives de cette semaine. Nous allons nous intéresser à trois événements qui sont un anniversaire, une fête du cinéma et un événement qui ne se produit qu'une seule fois par an mais qui rassemble des milliers de personnes. Commençons donc par cette fête qui célèbre les 20 ans du réseau de fabrique culturelle de la Melle, un événement qui aura lieu à la Ferme d'En Haut à Villeneuve-d'Ascq de 15h à 19h30. Au programme, spectacles, concerts, propositions artistiques étonnantes, tout est fait pour illuminer votre dimanche. C'est ce même dimanche d'ailleurs qu'aura lieu une fête du cinéma qui se nomme Lille Cinéphile. Lille Cinéphile, c'est d'abord une association qui milite pour le retour du cinéma indépendant à Lille et qui ce dimanche organisera une fête à la Gare Saint-Sauveur de 18 à 20h. Cette fête sera à la fois un endroit de réflexion et d'amusement, où l'on pourra revoir des films cultes, mais aussi un endroit convivial de quoi aborder sereinement les grandes vacances. D'ailleurs, durant ces grandes vacances, il est possible que vous entendiez régulièrement parler d'un événement sportif qui demande de la force dans les jambes. Je parle bien évidemment du Tour de France, qui nous fait l'honneur de commencer à Lille ce samedi 5 juillet. Le départ aura lieu à Loos à 13h35 et l'arrivée à Lille, au boulevard Vauban vers 17h40. Pour plus d'informations sur les événements, rendez-vous sur lille.tourisme.com. Je vais maintenant laisser la parole à Jade et Dama pour plus de précisions concernant ces événements.
En effet Samuel, ce dimanche 6 juillet a lieu la dernière séance de Lille Cinéphile Fait la Fiesta. Cet événement est en partenariat avec Cellophane, de la suite dans les images, Cinélingue Hauts-de-France et le CAP. L'association existe désormais depuis plus d'un an et milite pour ouvrir un cinéma indépendant à Lille. Et ils ont bien raison, car Lille est la seule ville de France de plus de 200 000 habitants à ne pas avoir ce cinéma indépendant. De plus, on ne peut pas nier que cette création aurait bien du succès. En effet, les cinéphiles ne sont pas des moindres dans notre métropole. Pour notre culture à tous, il n'y a que des avantages à découvrir des œuvres qui sortent des demandes conventionnelles. Cet événement est ainsi un grand pas pour leur projet qu'on leur souhaite de réussir. Ainsi, voici le programme cinématographique de ce dimanche 6 juillet dans le thème des vacances. À partir de 14h30, on commence avec un film d'animation en stop-motion, Les grandes vacances de cow-boys et indiens. Une œuvre réalisée par Vincent Patard et Stéphane Aubier en 2021. Cette œuvre est une immersion pour les grands et les petits dans un décor fabuleux en carton-pâte. Cette histoire raconte l'épopée de trois amis, indiens, cow-boys et cheval, qui vivent une aventure tourmentée et rocambolesque pour retrouver des billets cachés de la grande foire agricole. Ensuite, on continue à 16h avec un film culte, Les vacances de Monsieur Hulot. Réalisé par Jacques Tati en 1953, cette production a reçu de nombreux prix, dont le prix de la critique internationale au Festival de Cannes. Monsieur Hulot, un personnage légendaire du cinéma burlesque français, est le centre d'attention durant tout le film. Son extravagance et sa maladresse irritent les vacanciers, mais est loin de déplaire aux enfants. Enfin, pour terminer cette séance avec brio, l'association vous offre la projection d'un film essentiel du cinéma américain par Emil Ardolino, Dirty Dancing. Il possède pour acteur incarnant le fameux duo de protagonistes, Patrick Swayze et Jennifer Grey. C'est aussi l'un des premiers films à aborder l'émancipation des femmes à travers la danse. Il s'agit d'une romance entre Bébé, la protagoniste, qui passe de simples vacances familiales et va faire la rencontre d'un jeune danseur rebelle. Elle découvrira alors un amour pour le Dirty Dancing et son jeune professeur de danse. Avec un programme pareil, vous passerez un après-midi agréable et passionnant. Alors rendez-vous à la gare Saint-Sauveur, entrée gratuite et sans réservation. Désormais, je vais laisser la parole à Dama, qui va vous parler du Tour de France.
Merci Jade. Ce samedi 5 juillet aura lieu le départ de la 112e édition du Tour de France. Cette année, comme en 1960 et en 1994, le départ se fera à Lille. Les coureurs parcourront 185 km dans l'île et ses alentours. Entre patrimoine et ambiance festive, suivez les coureurs et découvrez ou redécouvrez les monuments de ce territoire, comme la citadelle, le beffroi, le collégial et les fermes. L'événement se déroulera du 5 au 27 juillet sur toute la France. Cette première étape du Tour de France les amènera vers les plaines éventées de Wepp, puis sur la côte de Notre-Dame-de-Lorette, suivie des pavés de Cassel. Ils auront ainsi les mollets bien chauds avant d'attaquer le Mont Noir, qui est à 40 km de l'arrivée et qui viendra mettre à l'épreuve les jambes les plus musclées. Pour les plus résistants, cette étape se finira par un sprint sur le boulevard Vauban en direction de la citadelle de Lille. Pour conclure, nous vous laissons avec la suite des programmes sur le 106,6, campuslille.com et sur le DAB+. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était la culture présentée par les jeunes sur Radio Campus.
time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand.
I think she gets this from me.
Just remember.
Radio Campus, et si c'était les jeunes qui vous présentaient la culture?
Bonjour sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la journée du 13 juillet, pour laquelle a lieu un événement très pertinent autour des minorités pour le festival Écoute que coûte au 188 à Lille Five.
Ce mini-festival réunit les amateurs de musique autant dans l'écoute que dans l'écriture. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un festival sur la radio.
Alors on remercie la Fédération Franf de permettre aux habitants de Lille de participer à une telle journée.
À propos de Franf, c'est la Fédération des radios associatives du Nord de la France, dont Radio Campus Lille fait partie. Depuis 1991, la France fédère les radios qui garantissent un espace de liberté et priment des valeurs autour de l'éducation populaire. Revenons sur cette journée qui met en valeur l'histoire de la radio libre et les luttes qu'elle a menées et qu'elle mène toujours. Ces luttes concernaient principalement les minorités et le féminisme. Depuis la loi d'officialisation de 1981, les radios libres n'ont cessé d'augmenter dans les villes, ce qui devient très vite un bon moyen de lutte et de défense pour les minoritaires, chose qu'ils ne trouvaient pas dans les radios d'État. C'est pourquoi le festival a programmé une journée qui permet de rester dans le thème de ces luttes admiratives.
Pour commencer ce festival, deux séances vous sont proposées sur un atelier de production radiophonique, tout en restant dans le thème des minorités. Une séance de 10h30 à 12h30 et une autre de 14h à 16h sont disponibles sur réservation au 06 38 05 26 99. Il n'y a que 12 places par séance, alors faites vite. Pour continuer la journée, à 17h, une écoute historique des archives minoritaires vous est proposée. Et la soirée se finit musicalement. De 19h à 22h, les artistes Massico et Ekate B2B Shakisari vous ambianceront sur des line-up féministes et queer.
C'est une journée prometteuse. Vous ne risquez pas de vous y ennuyer, alors on vous y attend.
On vous laisse sur Radio Campus.
Sur les ondes du 106,6.
Sur internet campuslille.com.
Et sur le DAB+.
Au revoir.
Au revoir.
C'était les jeunes qui vous présentaient la culture sur Radio Campus. Radio Campus, les jeunes au service de la culture.
Nous revoilà sur Radio Campus pour nos deux dernières actualités concernant le quartier libre de Tourcoing et le musée du terroir à Villeneuve-d'Ascq. Le quartier libre a été inauguré à Tourcoing le 16 juin. Mais c'est quoi le quartier libre ? Situé à la place de l'ancien Crédit du Nord, dont les rénovations ont commencé l'année dernière pour une transformation en espace multiservice visant les jeunes. On peut y retrouver des zones de détente avec un baby-foot, des fléchettes, un espace de détente dédié à la discussion avec de quoi se poser et un espace de jeu avec des bornes d'arcade. Le quartier libre est donc un espace pour les jeunes, gratuit, dans le but de devenir un lieu de rencontre et de partage pour s'amuser ou se détendre. Le quartier libre est ouvert du mardi au samedi avec l'organisation de tournois, concours, des ateliers, des rencontres ou même des soirées spéciales. Et bien plus encore pour l'avenir. Avec un projet à 1 million d'euros, le quartier libre est en plein développement.
Merci Jade. Concernant le dimanche 6 juillet, le musée du terroir organisera une journée sur les vélos de l'époque, pour fêter le passage du Tour de France dans notre région. La journée est en collaboration avec des associations, dont Hauts-de-France Terre de Vélo, Main dans le Guidon, Le Grand 8 et l'entreprise Vintage et Patrimoine. Le musée proposera plusieurs activités, dont une exposition d'anciens vélos, pour découvrir le patrimoine industriel du Nord. En cas de problème avec votre vélo, rendez-vous avec Sébastien de l'association Les Mains dans le Guidon, qui vous donnera de nombreux conseils pour réparer votre vélo. Découvrez des vélos atypiques comme le fameux Grand B, un vélo avec une grande roue avant. L'association Grand 8, organisatrice de cet atelier, vous autorise même à les expérimenter. Enfin, Vincent Vasseur, un professionnel de bicyclette de l'entreprise Vintage et Patrimoine, vous transmettra sa passion à travers des démonstrations de restauration de vélos. Et pour les plus gourmands, comme d'habitude, tous les premiers dimanches du mois, des gaufres seront vendues dans la boulangerie du musée. Vous pourrez les savourer tout en écoutant le pianiste animateur de l'Estaminet, avec ses morceaux des années 1880.
Merci Dama pour cette dernière actualité. Maintenant, nous vous laissons sur les chaînes de Radio Campus.
106,6, campuslille.com et sur le DAB+. Au revoir.
Au revoir.
C'était un temps culture proposé par les jeunes sur Radio Campus.
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance.
angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser. Passer nos vies sur une grille d'accord.
4 heures de détente musicale sur Radio Campus le dimanche en compagnie de Bruno.
Avec 4 émissions et un foutu mélange.
Au Solemio de 7h à 8h.
Chansons italiennes.
Passion 60 de 8h à 9h.
Tubes des années 60.
Yo-yo musical de 9h à 10h.
Programmation éclectique.
Pour être heureux, chantez de 10h à 11h.
Chansons des années 30, 40, 50.
Radio Campus Lille, 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
C'est ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, dans les aventures qui va suivre, vous êtes déjà.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est la
crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
C'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation de l'usine.
La révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus pas
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais tomber en panne de poste. J'ai dit tant que vous ne prenez pas. Tant que vous, j'ai dit, jamais.
Aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2025, c'est la Saint Binational. Saint Binational est le saint patron des ennemis intérieurs qui attendent l'occasion de montrer leur vrai visage. Des infiltrés pleins de duplicité, prêts à nous sauter dessus. Des cinquièmes colonnes qui rongent le pays de l'intérieur. Des traîtres qui avancent masqués. Des sournois qui savent dissimuler leur félonnerie derrière un beau sourire. Des renégats qui fomentent dans l'ombre la chute de leurs bienfaiteurs. Des Judas prêts à se vendre pour 30 dinars. Des scélérats dans l'âme. Et d'ailleurs même, quelle âme ? Des hypocrites aux paroles fleuries. Des parjures, des doubles faces, des faux frères, des loups déguisés en agneaux, des renards dans la bergerie, des intrigants, des manipulateurs de foule, des spécialistes de l'apparence, des imposteurs, des dissimulateurs, des tricheurs, des conspirateurs, des spécialistes de l'adaptation, des fourbes au visage d'ange et à la geste vertueuse, des tartuffes aux flatteries douces et parfumées à la trahison, des artisans patients de la désagrégation du pays, des coups de couteau dans le dos, des espions aux dents bien blanches et bien longues, des corrupteurs, des malfaisants aux projets funestes, des nuisibles, des faussaires, des saboteurs bien trop visibles, des profiteurs, des parasites qui prolifèrent et se reproduisent comme des rats, tout ça pour toucher les allocs, des supporters du PSG dont les parents se prélassent au bled dans leur villa payée par nos impôts, des terroristes en puissance, des voleurs sans valeur et des antisémites. Antisémites. Bref, saint binational et le saint patron des Français de papier et des Arabes de merde. Mais si saint binational est franco-israélien, par contre, et qu'il commet un génocide, ça, ça va. Ça passe. Ça se canonise. Aujourd'hui, mercredi 2 juillet, le soleil s'est levé, la marée de tantôt te l'a tout enjubé. Il va se coucher, un bateau dans les dents, des étoiles dans les yeux. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, campusil.com et le DAB+. C'est donc bien l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus comme tous les mercredis à cette heure-ci ou à peu près. Ce soir, vous pourrez entendre Peter Mertens, le secrétaire général du Parti du Travail de Belgique, le PTB, qu'on aime bien ici. Peter Mertens dans son émission mensuelle Tout bascule. Mais juste avant ça, deux chroniques de notre camarade Saïd Bouamama sur l'Iran. et sa chronique Le Monde vu d'en bas, diffusée avec son aimable autorisation, bien sûr. Et c'est l'heure de le mettre, quoi.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique, comme celle qui suivra dans quelques jours, est consacrée au bombardement criminel de 3 sites nucléaires iraniens, à leurs conséquences possibles et aux leçons que l'on peut d'ores et déjà en tirer. Dans la nuit de samedi à dimanche, des bombardements états-uniens larguaient 14 bombes dites GBU-57, portant chacune une charge de 13 600 kg, sur les 3 principaux sites nucléaires iraniens, les sites de Natanz, Isfahan et Fordo. L'opération baptisée « Marteau de minuit » mobilisait 125 appareils, dont 7 bombardiers furtifs B-2, a expliqué quelques heures plus tard le chef d'état-major des armées des États-Unis, le général Dan Kane, en précisant qu'il s'agit, je cite, « de la première utilisation opérationnelle de cette arme ». Tirant à son tour le bilan de l'opération, Donald Trump profère de nouvelles menaces. Je cite, « les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran doit maintenant faire la paix. Rappelez-vous qu'il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes. Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous viserons ces autres cibles avec précision, rapidité et compétence. » Fin de citation. Ce qui est donc proposé à l'Iran, c'est le choix entre la capitulation ou de nouvelles attaques meurtrières. La réaction iranienne ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, déclare ainsi, je cite, « les événements sont scandaleux et auront des conséquences éternelles. L'Iran se défendra par tous les moyens nécessaires. L'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. Il n'y a pas de ligne rouge qu'il n'ait pas franchie. Et la dernière, la plus périlleuse, s'est produite hier soir. Ils ont franchi une ligne rouge majeure en attaquant des installations nucléaires. » Fin de citation. Joignant le geste à la parole, les autorités iraniennes déclenchent immédiatement une nouvelle salve de 30 missiles sur le territoire israélien, en utilisant pour la première fois des missiles balistiques à tête multiple. Un jour après, dans la nuit du lundi à mardi, plusieurs nouvelles salves de missiles touchent de nouveau de nombreux sites sur plusieurs points du territoire israélien. Dans la même nuit, enfin, 2 bases états-uniennes, l'une au Qatar et l'autre en Irak, sont à leur tour touchées par les tirs iraniens. Dans la nuit, Donald Trump annonce un cessez-le-feu devant entrer en vigueur pour 4 heures GMT, qui est dans la foulée accepté par l'État sioniste. Le fiasco est complet pour Tel Aviv comme pour Washington. Il s'agit bien d'un fiasco sur toute la ligne. Le programme nucléaire iranien n'est pas interrompu, les installations nucléaires visées ont subi des dégâts conséquents mais restent en fonctionnement. Le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne et en particulier de son fameux dôme de fer est enterré. La cohésion du peuple iranien est plus forte que jamais. Le discours de l'impuissance face aux géants états-uniens est démenti. La démonstration que la résistance est possible et efficace est faite, etc. Les États-Unis se retrouvent aujourd'hui dans une impasse stratégique porteuse de tous les dangers. L'obligation de réaliser le recul tactique qu'est le cessez-le-feu ne leur laisse que 2 possibilités. Soit reconnaître et accepter leur défaite, soit la course en avant meurtrière, en prétextant par exemple dans quelques jours que l'Iran a violé le cessez-le-feu. Il est trop tôt pour privilégier l'une ou l'autre de ces hypothèses, car elles dépendent de nombreux facteurs, et en particulier du rapport des forces au sein des États-Unis eux-mêmes. Au-delà des discours et fanfaronnades de Trump, les États-Unis sont confrontés cette fois-ci à une réalité nouvelle en termes de capacité de réaction et de résistance. Cela a été connu et prévisible. Pourquoi, malgré ce contexte, ont-ils quand même décidé cette agression militaire? 3 jours après avoir annoncé un ultimatum de 2 semaines, avant de mettre en œuvre la menace d'intervention directe états-unienne, Donald Trump décide de se contredire et bombarde l'Iran. Cette accélération est d'autant plus surprenante que Donald Trump est confronté au sein même des États-Unis à une opposition grandissante à une implication dans une guerre directe, y compris dans son propre camp. Rappelons en effet que Donald Trump a fait toute sa campagne électorale en promouvant une stratégie de paix et de désengagement militaire. Au cœur de cette campagne figurait le slogan « L'Amérique d'abord » que le candidat Trump a de nombreuses fois traduit comme la promesse de mettre fin aux aventures militaires étrangères de ses prédécesseurs et aux ingérences coûteuses dans les affaires intérieures des autres nations pour se concentrer sur une stratégie nationale de réindustrialisation. Sans surprise, la déception et le sentiment d'avoir été floué est au rendez-vous. C'est en tout cas ce que montre un sondage de la semaine dernière portant explicitement sur l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Réalisé par le journal The Economist, par l'Institut YouGov, entre le 13 et le 16 juin, les résultats indiquent une nette opposition à la guerre. Le journal Le Figaro, pourtant rarement hostile à Trump, résume comme suit les résultats de ce sondage. Je cite « Si 50% des Américains considèrent l'Iran comme un ennemi des États-Unis, seulement 16% d'entre eux estiment que l'armée devrait s'impliquer dans le conflit. Ils sont une large majorité, 60%, à s'y opposer, quand les autres, 24%, hésitent. Cette majorité semble d'ailleurs transpartisane, 65% des démocrates, 61% des indépendants et 53% des républicains s'opposent à une intervention militaire. » Fin de citation. Le génocide du peuple palestinien a par ailleurs suscité un large mouvement d'indignation, en particulier dans les universités. L'agression militaire contre l'Iran, alors que Tel Aviv bombarde l'Iran depuis le 13 juin, apparaît logiquement comme une complicité de génocide aux yeux de nombreux citoyens états-uniens. Malgré ce contexte, Donald Trump a quand même pris le risque politique de décider une implication directe de son pays dans la guerre contre l'Iran. S'il est encore trop tôt pour caractériser tous les facteurs qui ont joué dans cette prise de décision, plusieurs d'entre eux ressortent cependant de manière indéniable. Le premier est, selon nous, l'ampleur et l'efficacité de la riposte militaire iranienne. L'invincibilité du fameux dôme de fer de la défense israélienne a une nouvelle fois été démentie. Des cibles militaires et politiques importantes ont été touchées et détruites par les missiles iraniens. La diversité des cibles de l'Iran portait un message clair. Elle indiquait qu'il n'y avait aucun lieu en Israël qui pouvait être considéré comme entièrement protégé. Le second facteur est la cohésion du peuple iranien qui, malgré l'ampleur des frappes israéliennes, n'a pas cédé à la panique. Comme nous l'avons mentionné dans notre précédente chronique, une des attentes des frappes meurtrières sur l'Iran était en effet de susciter la panique de la population dans l'espoir qu'elle se retourne contre le gouvernement du pays. Le résultat obtenu fut exactement l'inverse. Comme très souvent en situation de domination, le dominant a été aveugle aux caractéristiques non matérielles de la lutte. L'histoire de l'Iran, les sacrifices passés pour accéder à une réelle souveraineté, la conscience d'une communauté de destin avec le peuple palestinien, tous ces facteurs ont conduit à une réaction collective à l'agression militaire en termes de renforcement de la cohésion populaire, de hausse de la détermination à se défendre et d'affirmation de dignité. Le troisième facteur est également apparu très rapidement. Dès les premières ripostes iraniennes, le constat que l'Iran s'était préparé depuis longtemps à une telle guerre était indéniable. Il fut fait dès les premiers tirs de missiles par de nombreux observateurs militaires, repérant l'existence d'une véritable stratégie de riposte iranienne. L'utilisation dans les premiers jours de stocks de missiles et de drones anciens pour épuiser le dôme de fer avant de passer à d'autres plus sophistiqués était patente. Par ailleurs, l'atterrissage en quelques jours à Téhéran de 3 avions cargo Boeing 747 chinois venait rappeler que l'Iran était loin d'être isolé. Le type d'appareil utilisé ne pouvait qu'inquiéter Tel Aviv et Washington. Ces énormes cargos sont en effet ceux qui sont classiquement utilisés pour le transport du matériel militaire. Ces livraisons, dont le contenu était tenu secret, venaient rappeler à tous les belligérants que la Chine et l'Iran sont engagés dans un partenariat stratégique depuis de nombreuses années. Il en est de même avec la Russie, qui a affirmé un soutien sans faille à Téhéran, comme en témoigne la visite du ministère des Affaires étrangères iranien à Moscou et la déclaration d'alliance stratégique qui l'a accompagnée. Il en est enfin de même avec la déclaration commune des membres des BRICS qui réaffirment leur soutien à l'Iran et condamnent l'agression états-unienne, même si certains des membres comme l'Inde ont individuellement des positions plus euphémisées. Nous reviendrons dans notre prochaine chronique sur les conséquences de l'intervention états-unienne. Sur le plan des causes, il est d'ores et déjà possible d'affirmer que l'accélération brusque de la décision de Donald Trump de passer d'une guerre par procuration à une guerre directe n'est pas un coup de tête de celui-ci ou le résultat de l'instabilité chronique du personnage qu'aime à évoquer de nombreux analystes. Il semble au contraire être une tentative de sauver une intervention israélienne qui se dirigeait rapidement vers un fiasco total. Il s'agissait en quelque sorte de sauver le soldat Netanyahou pour éviter ce fiasco. Le résultat en est un fiasco états-unien.
Thank you.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Notre chronique est, comme prévu, consacrée à l'évolution de la situation en Iran et aux conséquences de l'agression israélo-états-unienne contre ce pays. Les réactions à l'agression militaire états-unienne contre l'Iran ont bien entendu été immédiates et nombreuses. Elles révèlent que le monde a changé. Il n'est plus le même que celui d'après la chute de l'URSS, ni même celui après la chute du régime syrien. Cette dernière chute a convaincu de nombreux États que l'hégémonisme états-unien était prêt à tout pour se maintenir et que la voie des concessions à cet hégémonisme conduisait à la balkanisation et au chaos. Au-delà de la diversité des expressions utilisées, ces réactions à l'agression états-unienne constituent un véritable révélateur de l'état de notre monde et des rapports de force qui le caractérisent. Ces réactions mettent en effet en exergue la contradiction principale qui départage les acteurs nationaux aujourd'hui, à savoir l'opposition entre un hégémonisme et ses alliés d'une part et une multipolarité en développement d'autre part. Ces réactions peuvent en effet se classer en trois grandes catégories. La première est celle des alliés inconditionnels de Washington, approuvant l'agression états-unienne et reprenant l'ensemble de ces éléments de propagande de guerre. Sans surprise, on retrouve dans cette catégorie les principales puissances occidentales alliées des États-Unis. Nous disons sans surprise car ces mêmes pays étaient ceux qui, au cours de la réunion du G7 du 17 juin dernier, validaient l'ensemble des positions israéliennes de justification de leur agression contre l'Iran, enclenchée quelques jours plus tôt. Le communiqué du G7, qui, rappelons-le, réunit les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Union européenne, expliquait ainsi, je cite, « Nous, chefs d'État et de gouvernement du G7, réaffirmons notre attachement à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient. Dans ce contexte, nous affirmons qu'Israël a le droit de se défendre et nous réitérons notre soutien à la sécurité d'Israël. Nous affirmons également l'importance de la protection des civils. L'Iran représente la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Nous avons toujours affirmé clairement que l'Iran ne pourra jamais détenir l'arme nucléaire. Nous demandons instamment que le règlement de la crise iranienne permette une désescalade générale au Moyen-Orient, notamment un cessez-le-feu à Gaza. » Fin de citation. Chaque phrase de cette citation serait à commenter. Alors que c'est Israël qui agresse l'Iran, c'est le droit d'Israël à se défendre qui est clamé. Alors que le génocide continue à Gaza, c'est l'Iran qui est présenté comme la principale source d'instabilité et de terrorisme. Alors que seul Israël possède l'arme nucléaire dans la région, c'est l'Iran qui est décrit comme menace nucléaire. Avec une telle approche, ces mêmes États ne pouvaient qu'approuver l'entrée en guerre des États-Unis, même s'ils accompagnent celle-ci d'un appel à la désescalade. Une déclaration commune de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, datée du 22 juin, annonce donc logiquement leur soutien à Washington. Je cite « Nous affirmons notre soutien à la sécurité d'Israël. Nous avons toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire et ne pourra plus constituer une menace pour la sécurité régionale. Nous demandons instamment à l'Iran de ne pas entreprendre d'autres actions susceptibles de déstabiliser la région. » Fin de citation. La seconde catégorie de réaction a été la condamnation ferme de l'intervention militaire états-unienne. De Moscou à Pékin, en passant par Alger, Islamabad, Rio de Janeiro ou Caracas, c'est la violation de la souveraineté nationale iranienne qui constitue le cœur des déclarations officielles. L'atterrissage de 3 avions cargo chinois à Téhéran est venu souligner que l'Iran pouvait être alimenté durablement en armement. La déclaration du gouvernement chinois expliquant que Trump avait perdu toute crédibilité internationale par cette violation du droit international sonne comme la justification politique de cette aide à l'Iran. La rencontre en plein conflit entre Poutine et le ministre des Affaires étrangères iranien est venue réaffirmer la solidité de l'alliance stratégique avec la Russie. La déclaration des BRICS de soutien à l'Iran, en dépit de l'ambiguïté de certains de ses membres, démontre que ceux-ci ont compris que leur propre souveraineté dépend de la réussite ou non du plan états-unio-sioniste de déstabilisation de l'Iran. La troisième catégorie regroupe de nombreux pays qui centrent leur position sur un appel à la désescalade et sur le danger d'une extension régionale, voire mondiale, du conflit. Et d'autres pays qui ont adopté une position de silence prudente comme la plupart des pays africains. L'image mondiale qui se révèle est bien celle d'une contradiction centrale entre l'hégémonisme occidental et une tendance contre-hégémonique multipolaire, avec un troisième pôle à la fois impliqué économiquement avec la tendance multipolaire, mais adoptant une posture de prudence politique dans la prise de position sur la guerre, par crainte des répercussions et rétorsions états-uniennes. Les frappes états-uniennes ont bien entendu provoqué des dégâts sur les infrastructures nucléaires iraniennes. L'ampleur de ceci reste cependant difficilement évaluable au regard des informations disponibles. Ce qui est en revanche avéré, c'est le caractère de fanfaronnade des déclarations officielles états-uniennes annonçant la destruction complète de ces infrastructures. Immédiatement, après celle-ci, l'Organisation de l'énergie atomique iranienne annonçait que les frappes états-uniennes ne pouvaient pas arrêter le programme nucléaire iranien et que le stock d'uranium enrichi avait été mis en sécurité avant l'attaque états-unienne. Dès le lendemain, le New York Times analyse les images satellites disponibles et conclut à l'existence de dégâts importants, mais ne permettant pas de stopper l'activité des sites. Évoquant le principal site, celui de Fordo, l'article de ce journal explique, en citant des militaires israéliens, je cite, « Le site n'a pas été entièrement détruit, mais seulement gravement endommagé ». Fin de citation. Enfin, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, dément les affirmations de Trump le même jour. Je cite, « Les infrastructures critiques du cycle de combustible nucléaire semblent n'avoir pas été affectées ou n'avoir subi que des dommages mineurs. L'enrichissement de matière nucléaire, et nous pouvons désormais le dire sans détour, la future production d'armes nucléaires va se poursuivre. » Fin de citation. La dernière phrase de Medvedev n'est pas une erreur ou un lapsus, mais une conclusion logique. Par leur agression, les États-Unis ont sans doute définitivement convaincu les Iraniens de se doter de l'arme nucléaire pour disposer d'une arme de dissuasion dans un monde où un membre du Conseil de sécurité s'autorise ouvertement à violer le droit international. Medvedev poursuit son raisonnement en indiquant, je cite, « Plusieurs pays sont prêts à fournir directement à l'Iran leur propre ogive nucléaire. » Fin de citation. Le Pakistan l'avait déjà annoncé publiquement, mais Medvedev souligne qu'il n'est pas le seul. Autrement dit, le seul résultat obtenu après 10 jours de bombardement israélien est l'entrée en guerre directe des États-Unis et l'exact inverse du but de guerre affiché tant par Tel Aviv qu'à Washington. Enfermé dans son objectif de contrôler totalement cette région stratégique, sans doute la plus importante en termes de distribution de puissance mondiale, Donald Trump a tout simplement sous-estimé que le monde actuel n'est